La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Au micro avec vous aujourd'hui, Lionel Fouché, je suis pasteur à l'église Assemblée de Dieu du quartier Sainte-Agne à Toulouse. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui sera le premier volet d'une série sur Jésus, quoi de plus normal que de parler de Jésus, sachant qu'il est le centre de la foi chrétienne. Il est celui que nous aimons, celui que nous prions, celui que nous bénissons, celui que nous chantons, oui, nous reconnaissons qu'il est tout pour nous et que sans lui, nous ne sommes rien. Il est donc vraiment le centre de notre foi. Notre premier volet sera sur la dignité de Jésus. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons dire que quelqu'un est digne? Nous avons nos critères de référence pour le dire. Nous pouvons énumérer certaines qualités morales et spirituelles d'une personne, son comportement, ses paroles, ses réactions dans telle ou telle situation, les relations qu'il entretient avec d'autres personnes, les exploits, les actes qu'il a pu faire qui ont pu le rendre digne, et tout cela, bien sûr, peut former un tout. Arrêtons-nous sur la personne de Jésus pour considérer ce qui fait sa dignité et que nous pouvons vraiment le dire avec conviction. Nous voyons déjà dans les évangiles, dans ses relations avec les uns, avec les autres, avec toutes sortes de personnes, avec des hommes et des femmes religieuses, avec des gens du peuple comme avec les gens riches, avec des gens sans instruction comme avec des gens de grandes instructions. Nous voyons Jésus aborder toute personne, guérissant les malades, accueillant toutes sortes de personnes, ce qui lui a valu d'ailleurs parfois des critiques parce qu'il accueillait même les gens de mauvaise vie et il mangeait avec eux. Nous pouvons allonger la liste des paroles de Jésus, de ses faits et de ses gestes dans telle ou telle circonstance qui nous montrait avec évidence la dignité de Jésus. Et cette dignité, il l'a toujours puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais j'aimerais lire avec vous un premier texte dans la Bible au chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et le verset 11. Je cite « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Ce qui fait la dignité de notre Seigneur, c'est qu'il a créé toutes choses et que c'est par sa volonté qu'elles existent. Lorsque nous considérons un bel ouvrage tel un château, un palais, une belle maison, nous sommes émerveillés de voir les détails de ces constructions et nous pouvons les regarder pendant des minutes, voire des heures. Si ces ouvrages peuvent être merveilleux, à bien plus forte raison, nous pouvons honorer ceux et celles qui ont construit ces ouvrages, les architectes, les maçons, les charpentiers, les décorateurs, enfin tous ceux qui ont participé à la construction de ces ouvrages. Si un ouvrage humain peut bien nous émerveiller, à bien plus forte raison, lorsqu'on considère la nature et tout l'univers, lorsqu'on considère la création elle-même et la vie qu'il y habite. Il est dit ici, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Oui, notre Dieu est digne, plus digne encore que la création elle-même qu'il a faite, car celui qui a créé une chose est digne d'honneur bien plus que la création elle-même, que la créature elle-même. Oui, nous sommes émerveillés devant tout l'univers entier lorsque nous regardons la nuit, un beau ciel étoilé, nous sommes émerveillés. Alors, nous sommes aussi, et à bien plus forte raison, émerveillés devant la grandeur de celui qui l'a créé. Et cela fait sa dignité. Mais j'aimerais m'arrêter sur un autre point qui fait avec plus évidence encore, peut-être, la dignité de notre Seigneur. Et nous trouvons ça dans le chapitre suivant du même livre, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, du verset 2 au verset 12. On va lire ce passage en entier, car il en vaut la peine. Je cite. « Je vis aussi un ange puissant proclamé d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois, des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Fin de citation. Ce passage est extraordinaire, tout comme tout le reste du livre de l'Apocalypse, où il y a, il est vrai, des choses difficiles à comprendre, mais aussi des choses qui portent nos cœurs à l'espérance. C'est un livre rempli d'espérance. Dans ce texte que nous avons lu ensemble, une question est posée au début par un ange. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? La question est posée et la réponse est donnée au verset 3. Personne. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Autrement dit, personne ne fut trouvé digne. La réaction de l'apôtre Jean, qui pourrait être aussi la nôtre, c'est qu'il a pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Personne. Personne, même pas lui, l'apôtre Jean, qui et fut cet apôtre remarquable qui a marqué les évangiles. Cet apôtre qui a écrit trois épîtres, qui a écrit l'Évangile selon Jean et qui a aussi écrit ce livre de l'Apocalypse. Personne, même pas l'apôtre Pierre, qui lui aussi a marqué les Évangiles et le début des Actes des Apôtres, qui a écrit lui aussi deux épîtres dans la Bible. Personne. Même pas l'apôtre Paul, qui lui aussi a marqué la seconde moitié du livre des Actes des Apôtres, qui a écrit toutes ces épîtres dans le Nouveau Testament. Personne. Personne, même pas ces hommes de Dieu et ces femmes de Dieu que nous trouvons dans toute la Bible, de la Genèse jusqu'à la fin de la Bible. Ni même ces hommes et ces femmes de Dieu que nous pouvons connaître, que l'histoire de l'Église nous apprend à connaître et qui ont fait des choses remarquables en raison de leur foi en Dieu. Oui, même ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'Église ne furent trouvés dignes. Personne ne fut trouvé digne, non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. On peut penser à tous ces archanges, à ces anges, tels que l'ange Gabriel. D'ailleurs, Jean, tellement impressionné par l'ange que Dieu lui avait envoyé pour lui apporter cette révélation dans le livre de l'Apocalypse, a été tenté d'adorer l'ange, mais non, l'ange va le relever en lui disant d'adorer Dieu. Personne dans le ciel et sur la terre, personne aussi illustre soit un homme, aussi illustre soit un ange, personne ne fut trouvé digne. Alors Jean a beaucoup pleuré. Toutefois, il y a quelqu'un qui a été trouvé digne. Et nous le voyons au verset 5. Quelqu'un qui a été trouvé digne, et c'est Jésus qui est présenté ici comme cet agneau de Dieu. Il est dit, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. La raison de sa dignité est donnée ici, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. La raison de sa dignité est son sacrifice à la croix. Il est monté sur la croix par amour pour chacun d'entre nous, sans aucune distinction de race, sans aucune distinction de rang social, sans aucune distinction tout court. Jésus est monté sur la croix pour chacun d'entre nous. La raison de son sacrifice est pure, noble, juste et plein d'amour. Lui seul a pu faire cela. Il s'est donné entièrement pour chacun d'entre nous. Il nous a tant aimés qu'il a été jusque-là, alors même que, j'allais dire, nous n'étions pas aimables. Nous, il nous a aimés. Alors même que peut-être nous étions ennemis de Dieu, lui, il nous a tellement aimés qu'il a été jusqu'à la croix. Il est mort, non pas pour des hommes et des femmes de bien, mais il est mort sur la croix pour des pécheurs et des pécheresses tels que nous. Oui, Jésus est digne et il a su rester digne en toute occasion. Son comportement fut digne, même sur la croix, il est resté digne au milieu de l'épreuve, de la souffrance, dans la tentation, dans l'humiliation et dans les insultes. Et j'aimerais, en disant ceci, lire encore un autre passage que nous trouvons dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, du verset 20 à 25. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel, vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Ce texte de l'apôtre Pierre nous ramène encore à la croix. Il est dit ici que Jésus n'a point commis de péché. C'est ce qui fait sa dignité, contrairement à nous, car nous le savons, nous sommes tous des pécheurs et des pécheresses. Lui n'a point commis de péché et il ne s'est trouvé dans sa bouche aucune fraude. Il a toujours parlé honnêtement, toujours dit des bonnes paroles. Il nous est dit encore qu'injurié, il n'a point rendu d'injure. Quelles sont nos réactions lorsque nous recevons des injures et qu'elles, en plus, elles sont injustifiées? Parfois, eh bien, nous rendons injure pour injure, œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus ne s'est pas laissé surmonter par le mal, au contraire, il a surmonté le mal par le bien. Il a surmonté le mal par un excès d'amour, j'allais dire, à tel point que sur la croix, il s'est écrié « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous étions dans l'ignorance et Jésus nous a pardonnés. Il a été insulté, moqué, mais il a pardonné. Il est dit encore que maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il a gardé confiance en son Père jusque dans ces moments-là. Même lorsqu'il a été maltraité, il n'a point fait de menace. Il aurait pu le faire, mais Jésus s'est gardé de le faire. Il a continué à aller jusqu'au bout dans son amour pour chacun d'entre nous. C'est ce qui fait sa dignité. Face à la dignité de Jésus, nous nous sentons si petits. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dira que Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Facile à dire, j'allais dire, mais beaucoup plus difficile à faire. Heureusement que nous ne sommes pas seuls. Heureusement que Jésus ne nous a pas laissés orphelins, mais il a envoyé dans nos cœurs le Saint-Esprit par lequel nous pouvons suivre les traces de notre Seigneur Jésus. Mais la dignité de notre Seigneur renvoie de nous l'image de notre cœur tel un miroir. Et face à cette dignité de Jésus, nous pouvons nous sentir si indignes, comme ce centenier dans les évangiles qui ne se sentait pas digne que Jésus entre sous son toit. Mais qui est digne? Mais Jésus nous fait cette grâce de venir dans notre vie. Jésus nous fait cette grâce de venir sous notre toit. Ou comme encore cet homme de Dieu remarquable que fut Jean-Baptiste, qui ne se sentait même pas digne de délier la courroie des pieds de Jésus. Nous aussi, nous pouvons ne pas nous sentir dignes d'accomplir tel ou tel service. Lorsque Dieu nous appelle à telle ou telle action, tel ou tel service, nous pouvons aussi objecter que nous ne nous sentons pas dignes. Mais là encore, c'est sa grâce qui est agissante envers chacun d'entre nous. Ou encore comme l'apôtre Paul, qui ne se sentait pas digne d'être appelé apôtre. Tout cela parce qu'avant sa conversion, il avait persécuté l'Église de notre Seigneur Jésus. Mais la grâce du Seigneur a été aussi agissante envers lui. De la même manière que le Seigneur est celui qui pardonne aussi toutes les erreurs et les péchés que nous avons pu commettre, et parfois ceux d'une manière répétitive, il est celui qui nous fait cette grâce, encore aujourd'hui, de nous appeler ses fils et ses filles. Le Seigneur est celui qui nous fait grâce. Il y a plusieurs exhortations, encouragements dans la Bible à marcher digne, d'une manière digne de lui. Certaines situations nous éprouvent. Certaines tentations sont là dans nos vies. Et nous pouvons réagir d'une manière pas toujours très louable, pas toujours très digne d'un enfant du Seigneur. Et tout comme le Fils prodigue, dans ces occasions-là, nous ne pouvons peut-être ne plus nous sentir dignes d'être appelés fils de Dieu. Le Fils prodigue, en effet, lorsqu'il reviendra vers son Père, il avait outragé son Père, nous connaissons cette histoire. Il va lui dire, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Voilà, le sentiment qui gagne parfois notre cœur, c'est que nous nous sentons plus dignes d'être appelés fils et filles de Dieu. À cause de tout ce que nous avons pu dire, à cause de nos pensées, à cause de nos actes, de nos réactions, de notre comportement. Mais que va faire le Père du fils prodigue? C'est qu'il va accueillir son fils avec joie. Il va le restaurer dans sa relation. Il va lui faire un accueil extraordinaire. C'est ainsi que notre Père céleste nous reçoit après nos égarements lorsque nous revenons à lui. Nous ne nous sentons pas dignes, il est vrai, d'être encore appelés fils et filles de Dieu. Mais nous sommes tellement bien dans la présence de Dieu. En tout cas, lui, notre Père céleste, a un comportement complètement digne, puisque même dans ces situations-là, il nous accueille. Il est celui qui pardonne aux pécheurs repentants. Il est celui qui nous rétablit dans cette communion, dans cette intimité avec lui. Oui, il est digne. Alors face à la dignité de Jésus, bien sûr, nous nous sentons indignes, mais nous réalisons encore plus la portée de sa grâce et de son amour. Et cela nous amène à le glorifier, cela nous amène à le louer, comme nous l'avons lu dans les deux premiers textes tout à l'heure, dans le livre de l'Apocalypse. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur et la puissance, car il a créé toutes choses. Il est digne aussi de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, car il a été offert en sacrifice et il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Oui, Jésus est digne. Nous portons nos regards sur celui qui est digne et cela nous amène à le glorifier. En attendant ce jour merveilleux où nous serons dans le ciel avec les anges pour le louer en raison de tout ce qu'il est, en raison de son amour, en raison de sa sainteté, en raison de sa dignité. Déjà ici-bas, nos cœurs se remplissent de chants de louanges, nos cœurs se remplissent d'admiration devant lui, nos cœurs se remplissent de reconnaissance, car lui seul est digne de recevoir la louange, la puissance, la richesse et la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Que son nom soit donc glorifié dans nos vies, que son nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Et nous voulons continuer, comme dit l'apôtre Pierre, à suivre les traces de celui qui est digne et qui a su rester digne et qui le sera pour toute l'éternité. À son nom soit donc toute la gloire. Dans nos registres de chants d'église, plusieurs chants évoquent la dignité de Jésus. Cela, eh bien, nous montre avec évidence que l'Église reconnaît que seul Jésus est digne dans les cieux et sur la terre. Parmi ces chants, j'aimerais partager avec vous, et pour conclure le sujet d'aujourd'hui, un chant de Dan Luten qui nous dit tout simplement dans ce chant « Toi seul es digne ».
L'immensité, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Tu feras sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, que je sois. Et pour moi tu as tout donné, tu as tout donné pour moi. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont ici, mon Dieu, sont dans tes bras, oui, mon sauveur. Oui, toi seul es. Thank you. recevoir louange et gloire pour l'éternité.